Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas, parce que ça se voit pas forcément, et que
Ça
ça
se
se
dit
dit pas
pas.
en fait.
Ça se dit
Ça
pas.
se dit pas.
Ça ne se dit pas.
C'est une question que je me pose, c'est pas une affirmation, hein. C'est vraiment une question. Voilà.
Madame, s'il vous plaît.
Bon, on va lui faire signe. Hein.
Parce que la maladie, c'est politique en fait, comme tout.
Cet état-là, c'est une fréquence en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une fréquence. La fréquence autiste, tu sais.
Ça se dit pas.
Ça se dit pas.
Cette vie de vandale.
Ah ouf!
Betty, attaque! Attaque! Allez!
Le rapport entre la science et la clinique est inégal. Des fois, c'est la clinique qui est en avance, d'autres fois, c'est la science qui est en avance. Mais là, la science est vraiment en avance sur la clinique. Il y a une résistance des milieux cliniques à poser un diagnostic d'autisme dans des cas où la personne est peu visible et peu marginale, alors que ça fait une bonne vingtaine d'années que les scientifiques savent que le diagnostic qu'on va appeler catégoriel, autrement dit dire on est ou on n'est pas autiste, ça pose des problèmes. Hein, et ça pose des problèmes scientifiques qui sont vraiment profonds. Certains CRA ont un taux de diagnostic pour les personnes autodiagnostiquées de peut-être 5% et d'autres 80%. Si on peut varier de cette façon-là, c'est pas qu'il y a les gentils et les méchants, c'est parce qu'on est dans un domaine dans lequel il n'y a pas de gold standard scientifique. Vous allez voir qu'on a un gros problème avec les seuils, à partir de quel seuil est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est effectivement autiste, et que ça donne dans un sens une trop grande liberté aux cliniciens qui peuvent avoir une position très très conservatrice, c'est-à-dire de donner un diagnostic d'autisme que pour des gens qui ont un grand niveau de marginalité.
Je pense que c'est presque une question d'ordre philosophique en fait, et effectivement on pourrait se demander, mais est-ce que c'est vraiment au milieu médical au fond de répondre à ces questions-là? Bah pas que peut-être en fait.
Notion de trouble, maladie.
Je vais prendre des photos.
Bonsoir.
Bon, bonsoir. Nous voici en direct du Dôme. L'igloo de l'automne.
L'igloo de l'automne, c'est joli.
Donc le thème de ce café philo, la neuroatypie a-t-elle sa place en psychiatrie?
Ça se dit pas.
Ça ne se dit pas. Alors déjà le terme neuroatypie...
En fait en gros c'est une façon de dire anormal, sauf que c'est beaucoup plus...
C'est qui diverge de la norme neurologique en fait.
Neuroatypie, oui.
Neurodivergent, neuroatypie.
Oui, mais il y a aussi dans l'atypie, il y a l'idée qu'il y a plein de différences.
Oui.
C'est ça que je trouve assez chouette dans ce mot. C'est que ça comprend finalement le mot neuroatypie, il comprend plein de choses, quoi. Enfin, une neurodiversité encore plus, quoi.
Oui, mais neurotypique, du coup, c'est aussi un terme qui a été inventé par les autistes, surtout.
Ouais.
Neurotypique. Pour, justement... pas se moquer en fait, mais rendre compte de l'absurdité en fait qu'il y avait autour de cette
idée de normalité finalement.
Oui, c'est ça, cette idée de norme neurologique justement à laquelle il faut correspondre en fait. Donc, mais c'est pour ça que du coup, tu vois, ces termes en fait, on les utilise parce que ils ont quand même une réalité en société, mais en fait. Le terme, moi, que j'aurais préféré utiliser, c'est vraiment la neurodiversité, en fait, qui, du coup, inclut vraiment tout le monde, en fait.
Dont les neurotypiques.
Dont les neurotypiques.
D'ailleurs, ouais.
Oui, puisqu'on a tendance à penser que quand on dit neurodiversité, en fait, on exclut justement cette...
Oui, et puis, bon, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême où les... Enfin, déjà, la neurotypie...
Non, mais c'est
est-ce
ça.
Que
mais
ça existe
c'est
vraiment
c'est ça.
Voilà.
Mais
est-ce
c'est
que ça existe
absurde.
Vraiment en soi? Après, oui, il y a quand même. Je pense qu'il y a quand même. Sinon, on se sentirait pas si différent. Donc, il y a quand même une majorité.
Mais je sais pas.
De comportement ou en tout cas
mais
de fonctionnement.
Apparemment, non, c'est une norme qui est établie. C'est une
oui.
norme de fonction. C'est une fonction.
Il y a quand même des gens qui s'y plient de manière quand même en ayant beaucoup moins de souffrance que d'autres.
Mais...
En tout cas.
Oui.
Quand même.
Oui. Après ça, je demande à voir quand même.
Ça me fait penser aussi à ce qu'on disait par rapport au CRA, au CRA, et cette idée que finalement, est-ce que quelque part ils ont, enfin cette idée qu'ils n'ont pas forcément intérêt à reconnaître trop de gens qui sortent de la norme, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme en fait n'existe pas. S'il y a de plus en plus de gens qui sont, ou en tout cas qu'elle est beaucoup moins importante que ce qu'on croit, quoi. Enfin que la proportion est beaucoup moins.
Oui, et puis de cette norme valide, en fait, et fonctionnelle, découle tout un système économique de production.
Oui, ou voire et inversement. C'est-à-dire que c'est les deux, c'est oui. Mutuel dans les deux sens, en fait. Ça s'influence dans les deux sens. C'est à la fois le système capitaliste et le patriarcat qui créent la neurotypie, et vice-versa, en fait. C'est ça. Et qui oppresse, du coup, les autres...
Et
le reste de la neurodiversité.
Et c'est la création de cet environnement handicapant, en fait, pour certaines personnes qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais moi, je pense qu'à la base, personne n'est fait pour fonctionner comme ça. Alors après, peut-être que c'est parce que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse penser et fonctionner différemment de moi. Mais je me dis que personne n'est fait pour fonctionner comme ça. Et pourtant, il y a des gens qui... plaisent dans ce système, il y en a vraiment en fait, qui se plaisent dans ce système de productivité, de,
oui, et puis,
de consommation.
De fait, quand tu discutes avec des personnes, moi on capte bien qu'il y a des fonctionnements qui sont différents. Et les fonctionnements neuroatypiques, nous on est les premiers à les reconnaître. Enfin, c'est ce qu'on disait, on les reconnaît ces fonctionnements. Il suffit d'entendre la personne parler, enfin souvent c'est vrai, c'est assez frappant.
Mais tu vois, pour moi, c'est la façon la plus saine d'exister.
Ah non, mais là, je ne te parle pas de est-ce que c'est sain ou pas sain. Je dis juste qu'en tout cas, il y a des fonctionnements différents. Ça, on ne peut pas le nier.
Mais du coup, ces gens, on ne les oblige pas à fonctionner comme nous. Par contre, nous, on est obligés de fonctionner comme eux.
Ouais.
Et on n'y arrive pas.
Dans une certaine mesure, oui.
Bah, dans une grosse mesure, ouais. Mm. Et on n'y arrive pas, en fait. On n'y arrive pas
Et de la même manière, moi, je pense, enfin, je suis même quasi certaine qu'il y a plein de personnes, et je m'inclus dedans, qui touchent une AH et qui ont un statut de personne handicapée, qui dans une autre société qui fonctionnerait différemment n'auraient pas besoin de ça, pourraient travailler en fonction de leur rythme, etc., et de leurs besoins, et pourraient apporter beaucoup à la société, en fait.
Bah après, les aménagements pour les personnes en situation de handicap,
enfin, c'est une blague, souvent
sont censés
oui,
avoir
c'est pas
ce,
ce
résultat
pas du tout.
Non, c'est pas le cas.
C'est une blague. En fait.
C'est une blague.
Non, il faudrait, moi je parle carrément, il faudrait que la société fonctionne différemment. Il faudrait qu'on ait une
c'est
idée
ça.
Du travail
mais
qui soit complètement
ait,
différente
il
aussi.
Il faudrait qu'il y ait une réelle
de
inclusion de la neurodiversité aussi, du fait qu'il y a différents fonctionnements, mais pour de vrai, en fait, que ce soit pas... Mais même le terme inclusion, moi, il me dérange, tu vois, parce que, en fait,
ça veut dire
inclure les personnes dans une norme, encore une fois. Et alors que non, en fait, il faut repenser la société, en fait.
Oui.
En comprenant qu'il y a des bases différentes et qu'elles peuvent toutes s'alimenter, s'enrichir les unes les autres.
Mais moi, je pense en plus que les personnes neurodivergentes ou neuroatypiques amènent énormément, en fait, à la société. Enfin, en termes de créativité, de justement de percevoir... que ce soit le travail, les relations,
d'intuition tout ça, aussi, d'intuition, tu vois, de certaines choses.
Je pense qu'elle, en fait, il y a dans cette, parmi ces personnes-là, enfin, il y a vraiment un vivier de choses extrêmement qui peuvent apporter énormément à la société, en fait.
Persuadée aussi, hein. J'en suis persuadée, mais le problème, c'est que c'est visiblement pas, enfin.
La différence, elle fait encore. Peur, mine de rien, parce que c'est ça aussi.
Elle fait peur, et encore une fois, il y a un tabou, et il y a presque un dégoût, j'ai envie de dire aussi, tu vois, les personnes handicapées. Alors là, bon, nous, on parle d'autisme, mais en fait, voilà, ça comprend...
Ou de handicap psychique, finalement.
Handicap psy, et même, du coup, handicap moteur, en fait, il y a une certaine... quelque part, une certaine répugnance, mais qui vient de la peur, en fait. Nous, en fait, si on a la possibilité, la liberté de fonctionner à notre rythme, ben en fait, on peut faire des choses...
On peut être très fonctionnel.
On peut être archi-fonctionnel, même.
Très efficace, ouais.
Et d'ailleurs, quand on met ça au service de
projets
projet ou quoi, les gens hallucinent un petit peu, quoi. Mais tu vois, moi, du coup, quand je peux intégrer ça dans mon boulot lambda, là, les gens hallucinent, tu vois. Comme les choses sont complètes, détaillées... comme je suis une personne réactive.
Mais parce qu'en vrai, quand on répond à nos besoins fondamentaux, on a des grosses capacités en fait derrière qui peuvent être mobilisées fait. Le problème, c'est que souvent le fonctionnement de la société nous bouffe, nous empêche de répondre à nos besoins fondamentaux.
La dernière fois, en fait, je me suis dit, mais est-ce que tu pourrais dire que t'es une personne handicapée ? Et quelque part, il y a une voix en moi qui me dit « Mais attends, par rapport à une personne en fauteuil roulant ou quoi, t'es pas handicapé de la même façon, quoi. » Et en même temps, à la fois l'environnement et à la fois la façon dont je fonctionne, mais par rapport à cet environnement aussi, et le fait que je fais des crises d'angoisse, etc., enfin, tout ça fait que, en fait, je suis handicapée. Alors, en fait, tout dépend par rapport à quoi ? Par rapport à une personne qui n'aurait pas ces difficultés, en même temps qu'il pourrait en avoir d'autres aussi, tu vois, mais... Ou encore une fois, par rapport à une société qui est faite pour les valides. Mais en fait, j'en suis arrivée à la conclusion, à un moment donné, de me dire, mais... En fait, si, tu es une personne handicapée. Mais d'ailleurs, tu touches... Enfin, je me suis dit aussi, tu vois, directement aussi, tu touches une allocation adulte handicapée. Enfin, en fait, concrètement, des fois, j'oublie, tu vois, ce truc. J'ai une allocation qui dit adulte handicapé. Tu vois, et elle dit pas en situation de handicap ou je sais pas quoi, elle dit adulte handicapé.
Avoir une hyperesthésie, être trop sensible aux choses, bah, ça peut être handicapant. Donc le handicap peut venir de notre condition, effectivement.
Physiologique.
Voilà. Et en même temps, le plus gros handicap est provoqué par l'environnement, en fait, dans lequel on évolue. Si l'environnement était adapté. Et du coup, qui dit handicap ne veut pas forcément dire maladie. En fait.
Cette idée de maladie qui va quand même aussi avec cette idée de norme.
Bah, complètement.
Moi, ce qui m'avait beaucoup interrogée aussi, c'est que dans les récents...
C'est un peu fort, là.
Un peu de musique. Là, ça va. Si ça reste comme ça, c'est bon. Donc, je disais que oui, moi, ce qui m'avait frappé dans les récents échanges que j'ai pu avoir avec le milieu médical... Et c'est un peu la mode en ce moment en psychiatrie, c'est le fait de vouloir complètement... faire disparaître le terme maladie, en fait, comme si c'était quelque chose de oh là là, hyper péjoratif et négatif, et que ça n'existe pas, et que voilà, on parle de à la limite handicap, dysfonctionnement, mais la maladie, tout ça, ça n'existe plus, en fait. Et ça m'a frappée parce qu'il y a quand même vraiment plusieurs soignants qui m'ont dit ça, à qui j'avais quand même envie de répondre, mais écoutez, en fait, moi je sais ce que je vis au quotidien, c'est moi la mieux placée pour savoir si je parle de maladie ou pas, en fait, c'est pas vous. Ça m'a quand même remis en place certains qui se sont dit « Ah ouais, peut-être. » Et en fait, ils ont quand même cette idée que le mot « maladie » renvoie vraiment quelque chose d'hyper négatif, comme si on pouvait pas en sortir, comme si on pouvait pas guérir, comme si on pouvait pas... Et moi, du coup, qui vis quand même plus ou moins avec ce terme depuis que j'ai 15 ans, le fait de... Enfin, ça a été vachement important pour moi, cette reconnaissance de me dire un jour... Enfin, ça a été dur à accepter, en fait, pour moi, de me dire j'ai une maladie, en fait, à un moment donné. C'est pas quelque chose que... Enfin, donc juste, dans mon parcours, cette reconnaissance d'avoir une maladie, ça a été hyper important. Et que là, on me dise du jour au lendemain... ah ben non, en fait, ça n'existe pas...
Le truc, c'est qu'on minimise, en fait, les séquelles que ça peut...
Oui, puis pour moi, c'est pas forcément péjoratif, le terme maladie. Ça veut dire que t'as une condition... Tu as des fragilités de base avec lesquelles tu dois vivre et avec lesquelles tu dois trouver des outils pour composer, pour arriver à vivre le mieux possible. Mais c'est pas en supprimant le mot qu'on va supprimer ce qui existe. En fait, tu vois, c'est ça qui me gêne.
Après, tu vois, là, du coup, on rentre dans le vif du sujet puisque tu parles de maladie. L'autisme, par exemple, c'est pas une maladie. C'est une condition neurodéveloppementale, en fait.
Et alors,
on parle de troubles neurodéveloppementaux, mais encore une fois, ce que je te disais l'autre jour, tu vois, par rapport à quoi ? Encore une fois, qu'est-ce qui dit qu'un enfant doit marcher à un an ? Qu'est-ce qui dit qu'un enfant doit dire maman et papa, tu vois, à un tel moment ? Il y a une certaine, quand même, on dit que les autistes ont une rigidité, mais franchement...
Les neurotypiques ont grave une rigidité.
En France, le milieu médical, t'as l'impression qu'il est coupé du reste de la société.
Il n'y a que les autistes qui savent ce qu'est l'autisme, j'en suis sûre. Pour moi, la norme, c'est quand même un peu tuer la vie, quoi. Tu vois, un peu tuer le vivant.
Je crois qu'il y a un truc qu'on peut dire, c'est que la psychiatrie est une science très, très, très relative, quoi. Et c'est vrai en ça. Des fois, moi, je me dis peut-être qu'on a tort de rechercher cette reconnaissance médicale auprès d'un système qui, en fait, est loin de détenir la vérité. Hein.
C'est dur pour des personnes handicapées, en tout cas pour moi, tu vois. C'est super dur d'aller chercher de l'aide, en fait. Mm. Et parce qu'il y a une honte de ne pas être autonome, de ne pas réussir à fonctionner seul.
Bah, on en parlait aussi il n'y a pas si longtemps, le fait de parfois devoir demander de l'aide à nos parents, tu vois, pour certaines choses.
Mais comme beaucoup de personnes autistes, en fait.
Bah ouais, mais c'est vrai que c'est...
Même c'est pas une maladie.
Non, pas du tout, mais c'est fort désagréable, mais c'est pas une maladie. Après, va dire ça aux familles, encore une fois. Qui ont des enfants ou des proches autistes avec des handicaps très lourds, qui sont parfois non-verbaux, qui passent parfois leur vie en institution. Pour eux, l'autisme, c'est une maladie, clairement, parce que ça empêche leurs proches d'être autonomes, d'avoir une vie.
Oui, mais voilà. C'est fou. Enfin, oui, mais ça les empêche d'être autonomes dans une société valide, encore une fois. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit, encore une fois, qu'on doit être autonome, s'éloigner de ses familles, fonctionner seul? Tu vois, enfin, c'est
avoir une relation amoureuse, potentiellement des enfants, avoir un travail productif, contribuer à la société et gagner sa
avoir
vie.
Avoir des loisirs aussi.
Avoir des loisirs. Enfin, la norme, c'est tout ça. Ouais. Et effectivement, l'autisme pose un sacré défi à tout ça.
Sèche, caco sèche.
Pas les codes sociaux, hein, mais je les comprends vraiment pas dans le sens où pourquoi on a été obligé d'établir ces normes-là pour fonctionner les uns avec les autres. C'est con ce que je dis, parce qu'on a besoin de savoir, d'avoir des choses qui régissent en fait les relations et la vie en communauté. Mais...
Oui, mais on n'a pas besoin que ce soit si rigide quand même.
Non, mais surtout que moi je comprends pas pourquoi ça peut pas se créer naturellement en laissant les gens être ce qu'ils sont, tu vois. Mais c'est pas possible, mais alors, c'est pour ça, avant, moi, je croyais que j'étais utopiste, ça se dit utopiste, utopique.
Utopiste, ouais.
Utopiste. Ou anarchiste, tu vois. Mais en fait, non,
c'est
juste autiste.
Ouais,
c'est ça. Ben, en fait, si t'es pas autiste avec une déficience intellectuelle, en fait, t'es pas considéré comme autiste.
Ou des signes extérieurs très prononcés.
Ou alors, ça veut dire, voilà, des signes, des traits très, très prononcés. Des traits, très, très.
Des traits, très, très. C'est joli.
Et du coup, en fait, si c'est pas visible comme ça, ben, en fait, on considère que t'es fonctionnel. Comme tout le monde, en fait. Mais du coup, c'est bizarre, quoi, parce que autant nous, on va nous dire vous êtes fonctionnel.
Vous n'êtes pas handicapé, alors que des personnes qui vont avoir un handicap moteur, on va leur envoyer constamment leur handicap, alors que eux, dans leur tête, ça se trouve, ils vont
et on va leur dire vachement plus. Et on va leur dire qu'ils sont. On va les traiter comme des personnes malades aussi.
Mais c'est ça, mais du coup, c'est cette notion du handicap qui est complètement biaisée et qui est complètement. Mal interprété, enfin, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les personnes concernées en fait juste s'exprimer et juste être comme elles sont, on va préjuger en fait pour elles de à quel point elles sont handicapées ou pas, selon si ça se voit ou pas, sauf qu'en fait c'est un domaine où on peut pas se fier aux apparences, parce qu'il y a plein de handicaps qui ne se voient pas, et il y a plein de personnes qui ont un handicap qui se voient, qui en fait vont être très fonctionnelles dans leur vie de tous les jours, donc c'est absurde en fait. Les trois quarts des gens vont considérer que quelqu'un en fauteuil roulant est beaucoup plus handicapé que quelqu'un qui est handicapé psychiquement. Or, il y a des personnes en fauteuil roulant qui travaillent sans problème, qui ont des vies de famille, etc. Là où tu as des personnes avec handicap psychique qui ne peuvent pas travailler. Des fois, le fait d'être autiste sans déficience intellectuelle, ça peut porter préjudice à ce qu'on pose un diagnostic, à ce que tes handicaps soient reconnus, à ce que tes besoins spécifiques soient reconnus et écoutés. Tout ça parce qu'en fait ton autisme n'est pas visible et donc n'a pas été repéré.
Non mais c'est ça en fait, les autistes sans déficience intellectuelle, On se dit juste qu'ils sont un peu bizarres, tu vois, mais bon, ils n'ont pas de soucis pour fonctionner. Puis quand ils arrivent à l'adolescence, ils se disent, ouais, c'est un peu chaud quand même, il y a un truc un peu vraiment bizarre. Puis à l'âge adulte, c'est la catastrophe. Et ils savent pas du tout ce qui se passe, tu sais. Alors que depuis qu'on est né, ils se disent qu'on est un peu bizarre, que putain, on fait pas ça, alors qu'on devrait faire ça. Et que machin, enfin, il y a un moment. Mais ça, voilà, c'est parce qu'en fait, on n'avait pas de retard significatif.
Autiste FM, ça se dit pas, la révolution.
Adieu la mer, adieu la mer, je m'en vais à la montagne. It's my life.
Je pense que c'est ce qui s'est passé en fait. On n'existait pas et on nous a inventés. Il n'y a que comme ça que c'est possible en fait.
Donne-nous quelque chose à boire, qu'on casse quelques verres sur les murs. Passagez votre château d'ogis pour prolonger la vie. Laisse les problèmes de côté. Viens chanter.
Qui ont tellement besoin d'aide, en fait, justement, dans cette société, que du coup, ils ont besoin de la reconnaissance des médecins, de cette validation des médecins. Mais nous aussi, moi aussi, en fait, j'en ai besoin. Pourquoi? Pour me faire un putain de dossier, tu vois.
Oui, toi, tu devrais toucher l'âge.
Ben, dans cette société de merde, ouais, je devrais. Je pourrais pas vivre de ça, mais au moins avoir une reconnaissance de travailleur handicapé.
Oui, puis l'âge, c'est un filet sécurité,
mais
c'est-à-dire
c'est ça, en
que
fait.
Si jamais tu perds ton boulot
c'est
demain,
ça. Mais c'est ce qui va arriver, parce que en fait,
voilà.
Je passe ma vie à faire des burn-out et à changer de boulot tous les 8 mois,
t'aurais au moins ce filet de sécurité.
C'est ça. Mais du coup, je comprends, tu vois, qu'il y ait besoin d'accompagnement, en fait. Et puis, effectivement, les personnes qui ont vraiment besoin, tu vois, les enfants à l'école, du coup, qui ont besoin d'auxiliaires, de...
Oui, les enfants qui ont besoin d'AVS et qui n'en ont pas.
Par exemple, tu vois, ou même, en fait, les parents qui ont vraiment besoin d'aide, parce que c'est dur au quotidien.
On laisse les familles, souvent.
Voilà, du coup, on ouvre sur une série qu'on fera bien plus tard, mais sur le soin et l'accompagnement, mais...
Bon, bien plus tard.
Ouais, non, bientôt, en fait.
Plus tard, voilà, ouais.
Mais non, après tu vois, il y a des, en fait, dans la communauté autiste, il y en a beaucoup quand même qui du coup luttent pour justement la neurodiversité, en fait, la reconnaissance de cette neurodiversité, et qui du coup aussi demandent le retrait de l'autisme du DSM-5, hein, parce que c'est pas une maladie en fait. Mais voilà, mais tant que on n'aura pas avancé sur cette question de fond de la neurodiversité et comment faire société vraiment ensemble, on aura toujours besoin de la reconnaissance des médecins
oui,
de ce handicap.
Après, encore une fois, une dame qui passe son tongue avec une télé.
Mazel tov.
Encore une fois, je trouve ça difficile de mettre sur le même plan complètement un autisme qui va générer effectivement, mine de rien, des degrés de handicap qui sont différents. Moi, je me dis, c'est compliqué. Comment on fait pour parler d'autisme de manière générale et large quand t'as quand même des différences qui sont vraiment conséquentes? C'est pas juste... Enfin, tu vois, c'est vraiment des grosses différences.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a un spectre de l'autisme, en fait.
Oui,
après d'avoir appelé ça trouble du spectre autistique, je trouve ça un peu chelou, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, du coup, ça crée l'autisme... crée des troubles en fait, voilà. Et après on mesure le degré de ces troubles là chez la personne en fait. Donc au niveau de l'accompagnement, t'as le niveau 1, niveau 2, niveau 3, voilà. Mais en fait et c'est ce que disait le professeur Nautron.
Motron, professeur Motron, pas Neutron,
dans sa conférence, c'est qu'il y en a qui sont niveau 3 mais qui n'ont pas besoin de l'accompagnement en fait.
Ah oui,
et
ça,
d'autres qui sont niveau 1 et qui auraient vraiment besoin d'un accompagnement. Donc encore une fois, c'est
Non mais en fait, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Enfin, je suis désolée, mais il y a aussi des facteurs comme l'accompagnement familial. Selon si tu as une famille ou pas, voilà, t'es aidé ou pas.
C'est ça.
Financier, etc. Il y a plein de facteurs autres que
le trouble en eux-mêmes.
Voilà, complètement.
autiste. On dit que pour l'autisme au sens large, il y aurait une femme autiste pour 4 garçons autistes, ou pour l'autisme sans déficience intellectuelle, une femme autiste sur 9 garçons autistes, mais qu'en réalité, peut-être, c'est totalement faux, et que ça se trouve, dans quelques années, on se rendra compte que c'est une femme autiste pour un homme autiste, c'est juste qu'on n'arrive pas à les détecter et à les diagnostiquer.
Les critères diagnostiques sont basés sur des stéréotypes très masculins, en fait, et des garçons, donc des enfants. Si on avait plus de connaissances sur le phénotype féminin de l'autisme, en fait, les critères diagnostiques ne seraient pas pareils, et la ligne, tu vois, qui dit que à partir de ça, t'es considéré comme autiste, mais avant ça, t'es pas autiste, en fait, si cette ligne bougeait, eh ben en fait, ça inclurait beaucoup de femmes qui sont pas diagnostiquées et que du coup, le sexe ratio serait équilibré, en fait. Voilà. Mais ça bouge pas.
Ouais.
Pourtant, on le connaît, le phénotype féminin, maintenant, tu vois, enfin, ça fait...
En fait, on est passé à côté de tout ça aussi à cause du patriarcat et de la domination masculine. Enfin, honnêtement, moi, je pense que c'est une grande, grande conséquence de la domination masculine, en fait. Et, tu vois, il tourne autour, j'ai l'impression, c'est incroyable, hein, mais c'est fou de pas inclure, de pas plus inclure... la soumission des femmes, la domination des femmes, quoi, par les hommes dans les recherches. Je trouve ça incroyable.
Il faudrait que ce soit une réflexion qui soit dans toute la société, en fait. Oui. C'est ça le problème.
Loin, hein.
Et là, on en est loin. En fait, c'est pas que dans les familles, c'est pas que au niveau médical, c'est vraiment au niveau de la société qu'il faut qu'il y ait un changement. Après, je sais pas comment, il n'y a pas de volonté politique. Enfin, en même temps, est-ce que ça doit vraiment venir de là? Pas forcément. Mais c'est une évolution des mentalités, en fait.
Bah, ça doit venir à plein de niveaux.
La sensibilisation, ce qu'on essaie de faire,
ça doit être, ouais.
Ce que plein de gens essaient de faire.
Ça doit être aussi politique que...
Non, mais politique, là, je parlais des instances politiques. Mais après, oui, c'est politique, oui. Au sens...
Dans les deux sens, ça doit être politique.
C'est militant, quoi.
Voilà, ça doit être politique au niveau de faire société, la vraie politique. Donc, effectivement, les consciences, en fait, la conscientisation et la liberté d'être. En
ça
fait.
Passera surtout par là aussi, quoi.
Ouais, mais ça passera aussi par le politique et surtout aussi, je pense, par l'évolution de la clinique et de la psychiatrie.
Aussi, tu vois que les gens... Il faut qu'il y ait une évolution aussi au niveau de qu'est-ce que le handicap et que finalement, il y a... Peut-être il y a beaucoup de gens qui se croient valides, en fait, parce qu'ils ont une idée du handicap hyper préformatée, avec beaucoup de préjugés. En fait, le handicap, ça peut être beaucoup de choses, au final, aussi. Je crois qu'il y a ça aussi.
C'est ça.
Et les gens se rendent pas compte souvent qu'on peut tous être concernés très rapidement, en fait, par ça.
Ils s'en rendent pas compte, et en même temps, j'ai l'impression qu'ils ont une espèce d'anxiété au fond d'eux-mêmes, tu vois, qui part pas.
Qui leur fait rejeter un peu.
Et qui leur fait rejeter ça. Mmh. Parce qu'en fait, moi je pense que même si on n'est pas. Enfin, de toute façon, je pense qu'on vit dans une société. On parle de maladie, je pense qu'on vit dans une société malade.
Mmh.
En fait. Que l'hôpital est malade.
Oui.
Ben, c'est dans le groupe de travail, non, dont on parlait de ça.
Aix-en-Provence,
ouais.
Au 3 bicef.
Mais voilà, là, effectivement, c'est, tu vois, ça pourrait passer pour des questions philosophiques, mais en fait, c'est des sujets qui sont importants.
De société.
C'est des sujets de société qui régissent nos quotidiens, quand même.
Mm.
Et moi, j'en ai marre de souffrir parce que je peux pas être qui je suis au quotidien. J'en ai marre, en fait.
Alors oui, et de se cogner aussi régulièrement à l'incompréhension, à un jugement et à un regard, parce que les personnes ne sont pas sensibilisées, ne sont pas informées, ne sont pas ouvertes aussi, tout simplement, parce que... Enfin, ça me rappelle aussi ce que tu disais, où tu disais qu'il ne faut pas forcément être une femme battue pour défendre les droits des femmes, enfin voilà.
Oui, et pour comprendre que c'est aberrant ce que vivent ces personnes,
voilà,
et que c'est pas...
Moi, des fois, j'aimerais bien que les gens soient un peu plus sensibilisés à la question du handicap, même s'ils sont pas forcément concernés.
Oui. On n'est pas obligé de comprendre ce que vit la personne pour respecter cette personne et respecter son fonctionnement, en fait. Enfin, à partir du moment où son fonctionnement ne nuit pas à la communauté... Mais le problème, c'est que reconnaître qu'il y a une neurodiversité, ça, encore une fois, on se répète, mais ça changerait ça changerait le fonctionnement de la société.
Bah, moi, je crois que
et le système de production, vraiment, quoi.
Oui, et puis je crois qu'au-delà de ça, il y a des gens qui ont besoin de se raccrocher à des repères qui sont toujours eus et que ça les fait complètement flipper si t'enlèves ces repères-là. Et voilà, il y a aussi... on est dans une société où il y a aussi des traditions hyper différentes aussi, des modes de vie différents. Et je pense que il y a aussi ça. Il y a aussi quand même des gens qui sont attachés, enfin qui sont accrochés à tout ça, quoi.
Moi, je te propose qu'on aille boire un coup ailleurs.
Ouais, j'éteins.
Bah ouais, non.
Hoppa, hoppa.
Mais tout ça,
ça se dit pas.
Ça se dit pas. Ça ne se dit pas.